Merci Vincent, et oui, c'est parti pour Allô, ici Bouvard sur RTL, et ce jusqu'à midi avec vous, Philippe Bouvard, bonjour.
Bonjour Isabelle, bonjour vous tous. Ah, une question générique et délicate, nous allons nous demander aujourd'hui si nous n'avons pas trop. Alors, trop de quoi? Ben, trop de journaux, trop de notaires, trop d'avions. Oui, 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 des questions qui se posent de plus en plus quotidiennement. Alors, au moment où il y a trop d'avions et où on pense sinon à les supprimer complètement, au moins à les remplacer par le train et parfois par la voiture, on peut se demander s'il fallait célébrer avec tout le faste requis, ce qui est quand même une grande réussite industrielle, c'est-à-dire les 50 ans d'Airbus. Oui, Airbus a 50 ans. Il y a 50 ans, Airbus est né de parents français et allemands et l'accouchement a eu lieu dans le salon du Bourget. Voilà, bah, parce que c'était le salon de l'aviation. Alors aujourd'hui, quand on fait les comptes, bah, on a des raisons de se frotter les mains et même de s'auto-féliciter, parce qu'en 50 ans, Airbus a livré quelques 12 000 appareils. C'est pas rien, hein, 12 000 appareils. Alors évidemment, ceux qui font passer le sauvetage de la planète avant les vacances au bout du monde s'inquiéteront. Bon, ben les autres se diront que ça fait du travail pour 133 000 salariés à travers le monde, que ça a été une grande réussite et qu'on peut apprécier en pensant qu'au départ, Airbus sortait 4 appareils par mois, alors que Boeing en sortait plusieurs dizaines. Et alors aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'apprécier cette performance à l'aune de la concurrence, il y a presque jeu égal. Alors Boeing a une toute petite avance avec 806 appareils par an, mais Airbus en sort 800. Bon, et ce sont des appareils qui sont variés, qui sont en constante progression technique. Alors bon, je sais, il y a eu un échec. Ah ben oui. Pourtant, on avait fondé beaucoup d'espoir sur l'A380. Bon, on embarquait un maximum de passagers. Il y avait plusieurs étages, plusieurs couloirs. Enfin, c'était un vrai petit immeuble volant. Et puis, bon, les Américains nous ont mis des bâtons dans les roues des appareils en surtaxant les gros porteurs. Et puis, les compagnies aériennes ont réfléchi, ont préféré des appareils un peu moins gros. Alors, il y a eu, chemin faisant, des nouveautés, notamment sur l'A320 qui reste le fer de lance d'Airbus. Il y a eu le remplacement du volant qu'avait le pilote entre les mains par un joystick qui est placé dans le prolongement du bras du pilote et donc qui facilite le pilotage. Il y a eu l'ordinateur de bord qui, en cas de faute de pilotage, est capable de rectifier la trajectoire de l'avion. Il y a eu l'allègement de l'avion avec des nouveaux matériaux. Il y a eu aussi la réduction du personnel navigant. Il y a eu aussi la réduction du nombre de pilotes qui sont passés de 3 à 2, puisqu'aujourd'hui, on a supprimé le poste d'officier mécanicien. Et on envisage pour 2023 qu'il n'y ait qu'un seul pilote, mais les syndicats de commandants de bord et de copilotes n'ont pas dit leur dernier mot. En revanche, aucune étude française ou européenne pour remplacer le défunt et regretté Concorde. Et avec une raison sordide, le Concorde coûtait trop cher.
Merci Vincent, et oui, c'est parti pour Allô, ici Bouvard sur RTL, et ce jusqu'à midi avec vous, Philippe Bouvard, bonjour.
Bonjour Isabelle, bonjour vous tous. Ah, une question générique et délicate, nous allons nous demander aujourd'hui si nous n'avons pas trop. Alors, trop de quoi? Ben, trop de journaux, trop de notaires, trop d'avions. Oui, des questions qui se posent de plus en plus quotidiennement. Y aura-t-il bientôt trop de notaires en France ? Bon, bah, l'institution, elle date pas d'hier. Il faut remonter aux Romains pour en trouver sa première trace. Mais elle a été depuis quelques mois, bon, je dirais même depuis quelques années, parce que ça remonte à 2015, elle a été parmi, sinon la profession, la plus réglementée. Alors, d'abord, je vais demander à Jean-François Humbert, qui est le président du Conseil supérieur du notariat, comment il a, lui, accueilli, perçu cette libéralisation de son métier.
Oui, bonjour. Il est vrai que depuis 2015, la profession de notaire en France, tout au moins, est fortement modifiée. Les effectifs s'accroissent rapidement. Nous sommes maintenant bientôt 14 000 notaires, quand en 2015, nous étions à peu près 10 000, c'est-à-dire 40% d'augmentation.
Pardon, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde ?
Tout l'enjeu, c'est effectivement de faire en sorte que, comme il n'y a qu'un notariat, tout le monde puisse travailler. Ça suppose de découvrir d'autres métiers, d'autres branches d'intervention. Ça nécessite que le notariat, les notaires aillent ailleurs que simplement sur le droit immobilier ou le droit de la famille, là où on les connaît traditionnellement.
Votre statut d'officier ministériel vous le permettrait. D'ailleurs, on a aussi élargi votre domaine de compétences.
Le statut du notaire fait que son acte, l'acte notarié, ne peut être établi qu'en France, comme les notaires allemands ne peuvent faire des actes qu'en Allemagne. En revanche, rien n'interdit de conseiller, y compris à l'international, de suivre ses clients, de les accompagner lorsqu'ils ont une activité qui les amène à aller au-delà de nos frontières.
Déjà, vous êtes indispensable pour de nombreux actes. Je pense aux contrats de mariage, je pense aux ventes immobilières, aux donations, aux testaments, aux successions et même aux hypothèques, hein.
Le notaire, si on devait le définir, c'est le juriste de la transmission du patrimoine. Il faut donc organiser les modes de vie, organiser les structures de ce patrimoine, créer des sociétés si besoin est, intégrer les nouvelles générations, organiser les donations. C'est un juriste, le notaire, qui accompagne ses clients depuis leur naissance, par des contrats de procréation médicalement assistée, par exemple, par de l'adoption, ensuite l'accompagne au moment du mariage, par les contrats de mariage, puis anticipe sur les transmissions de patrimoine avant enfin de régler la succession de ses clients. Nous sommes des juristes au contact quotidien des Français. Il y a à peu près 20 à 25 millions de Français chaque année qui se rendent chez les notaires.
C'est une profession qui tente de nombreux jeunes. C'est pas une solution de facilité parce que il y a de longues études et il y a de plus en plus d'études, vous venez de le dire, avec cette création de nouvelles études qui ont été attribuées, alors j'en croyais pas mes yeux, par tirage au sort et qui ne nécessitent plus le rachat de ce qu'on appelait naguère une charge. Bon, est-ce que ça ne fait pas baisser le prix des charges qui, elles, demeurent ses cibles ?
Les créations d'études, il y en a toujours eu. Auparavant, entre 20, 30, 40 études chaque année étaient créées sur l'ensemble du territoire. La loi de 2015 a procédé à une amplification du mouvement de création et c'est vrai, a mis au point un système un peu baroque de tirage au sort. C'est un système qui est périodique. On en reviendra à davantage, je pense, de sagesse et de raison par la suite. Ça n'interdit pas, pour les offices qui existent toujours, de continuer à être cédés, comme toute activité professionnelle, ou pour les offices qui sont exploités sous forme de société, de procéder à des cessions de parts.
Dernière question, est-ce qu'on peut considérer comme des privilèges de votre belle profession qu'on l'exerce jusqu'à 70 ans avant d'accéder à l'honorariat et que les notaires français forment les notaires chinois ?
Alors le notariat a effectivement une activité internationale assez développée. Nous-mêmes, au Conseil supérieur du notariat, avons une trentaine d'accords de coopération et le modèle du notariat français a inspiré la Chine qui, il y a une vingtaine d'années, a créé des notaires en Chine. Aujourd'hui, il y en a à peu près 15 000. Nous avons un bureau à Shanghai, au Conseil supérieur du notariat. Nous avons reçu le mois dernier le ministre de la Justice de Chine qui, pendant 2 heures, qui est venu échanger sur les routes de la soie. À l'occasion du dernier congrès des notaires, à peu près 50 délégations étrangères étaient venues.
Vous parliez du ministre de la Justice chinois, mais un notaire doit, en France, recevoir l'agrément du garde des Sceaux.
Ce qui caractérise un notaire dans tous les pays, c'est qu'il s'agit d'un professionnel qui est nommé par le ministre de la Justice. Il est nommé par le ministre parce qu'il représente l'État dans son activité. C'est ce qui lui permet d'établir un acte notarié, un acte public avec cette force particulière d'être directement exécutoire. Le notaire n'agit pas pour son compte personnel, il agit comme représentant de l'État.
Merci, Monsieur le Président.
Merci.
Y a-t-il trop de journaux en France ? J'imagine que le lecteur se pose moins la question que les diffuseurs de presse qui sont astreints à de véritables travaux forcés, surtout les kiosquiers, lorsqu'ils doivent afficher entre 300 et 3000 titres, enfin bien sûr en faisant une sélection, lorsqu'ils sont obligés d'ouvrir des potron miné, comme on disait leur échoppe le matin, et lorsqu'ils ferment leur petit commerce très tard. Bon, c'est un métier qui est de plus en plus difficile et qui était régi depuis 1947 par la fameuse loi Bichet. Alors, la loi Bichet permettait aux éditeurs d'imposer leurs titres aux diffuseurs de presse. Et avec le nouveau texte qui est à l'étude, ça va être complètement différent. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord 200 titres obligatoires, considérés comme des titres d'intérêt public. Bon, là, on n'a pas fini de discuter et sans doute y aura-t-il même des recours, parce que tous les éditeurs ne seront pas d'accord. Et puis, il y a aussi le fait qu'on va réduire les titres, on va réduire certains tirages, parce que les invendus coûtaient cher. D'abord, ils coûtent cher à imprimer et ils n'apportent par définition aucune recette. Et puis ensuite, bon, si on en revoit 10% aux éditeurs, il faut quand même en détruire 90%. Bon, donc si vous voulez, la presse n'est plus privilégiée. Elle n'est plus privilégiée parce qu'il y a trop de titres, elle n'est plus privilégiée parce qu'il n'y a souvent pas assez de lecteurs, elle n'est plus privilégiée parce que les grèves ont incité les lecteurs à se reporter vers la lecture électronique, et en plus au problème des invendus. Et parce que malgré la déforestation, on tire trop d'exemplaires. Et on tire trop d'exemplaires parce que les diffuseurs pensent que plus la pile de journaux sera importante sur leur étal, et plus le client sera tenté d'acheter. Ce n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Donc la profession va devoir se réorganiser. Et on laissera aux diffuseurs de presse toute latitude de choisir les titres qu'ils vont vendre, à l'exception bien sûr des exemplaires considérés comme d'intérêt public dont je vous parlais. Et puis il y a un nouveau danger qui est en train de poindre à l'horizon, enfin, si bien sûr la mesure est votée. C'est d'accorder aux boulangers le droit de mettre une pile de journaux entre les croissants et la baguette. Alors ça fera des points de vente supplémentaires et peut-être que ça ne fera pas les affaires des diffuseurs de presse, dont il faut quand même noter que si les titres se sont multipliés, le nombre des boutiques spécialisées a décru. Une question subsidiaire, mais importante, surtout pendant le week-end et à l'approche des vacances. La sieste est-elle du temps perdu ? Alors, la sieste a été longtemps l'apanage des bébés sous toutes les latitudes et des retraités dans les pays chauds. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle a conquis près d'un tiers des Français, mais aussi que, et ça c'est complètement nouveau, certaines entreprises ont installé chez elles des salles de repos à l'intention des siesteurs. Et alors, c'est tellement devenu ce qui était à l'origine un simple entracte dans la vie quotidienne, un phénomène de société, qu'un neuroscientifique, M. Brice Farreau, y a consacré un livre. Bonjour, M. Farreau.
Bonjour, M. Bouvard.
Est-ce que vous êtes vous-même un siesteur ?
Ah ben, écoutez, absolument, oui. Surtout lorsque mes nuits ont été trop courtes, hein, entre mon travail de recherche et j'ai deux enfants en bas âge, c'est vrai que c'est un outil formidable pour essayer d'être performant tout au long de la journée et trouver un peu d'imagination dans ces recherches.
Ça va beaucoup plus loin à vous lire, puisque la sieste a des effets bénéfiques. Hein ?
Absolument.
Alors, j'ai ouvert votre livre et je l'ai lu comme un bréviaire, mais au bout de quelques pages, je me suis demandé si c'était vraiment un livre pour moi, parce que vous cantonnez le siesteur dans un espace qui ne doit pas excéder 20 minutes. Or, je vous avoue que je fais la sieste depuis un demi-siècle, et je m'en trouve pas trop mal, mais cette sieste, elle dépasse très souvent 20 minutes et elle peut atteindre même plus d'une heure. Alors, je ne suis pas un vrai siesteur ?
Si, si, vous êtes tout à fait un vrai siesteur. D'ailleurs, oui, vous mentionnez le livre. À la fin du livre, on a fait avec les éditions Actes Sud ce qu'on appelle un pan-sieste. Et là, on essaie de voir tous les effets de la sieste. Et là, sont montrés les effets des longues siestes que vous mentionnez. Donc, complètement, faire une heure et demie de sieste, même si on n'est pas en forte dette de sommeil, on va avoir d'autres vertus. On va stimuler sa mémoire, stimuler ses apprentissages,
stimuler
sa créativité. Oui.
Vous déconseillez le sommeil profond.
Attention, c'est compliqué. Ça dépend pourquoi je fais une sieste. Est-ce que je fais une sieste parce que j'ai pas assez dormi, mais il me manque une heure de sommeil pour aller vite la nuit d'avant? Je vais être en forme à un rendez-vous, je vais faire une sieste d'une 10-15 minutes, ce qu'on appelle les anglo-saxons la power nap, nous on l'appelle la sieste énergisante, mais il n'y aura pas de sommeil lent profond, parce que le sommeil lent profond est très bien, mais le problème c'est qu'il provoque une inertie du sommeil au réveil, on est un peu dans le gaz. Donc si on a besoin d'être opérationnel très vite, oui je déconseille cette sieste. Par contre, si on a le temps de se réveiller, si on est en forte dette de sommeil, si on travaille de nuit, si on a un journaliste qui fait des matinales,
c'est de la récupération, c'est plus la même chose.
Oui, alors si c'est une sieste par plaisir qui est longue, je pense que là c'est les siesteurs par goût, par plaisir, que je mentionne aussi dans le livre. Donc ces gens cherchent des bénéfices psychologiques pour stimuler leur créativité, stimuler leur imagination. Et d'ailleurs, ils ont souvent beaucoup de réveils au cours de leur sieste. Ça leur permet d'être dans un état frontière entre veille et sommeil et vraiment d'avoir des visions oniriques qu'ils utilisent pour le génie créatif. Les scientifiques aussi, hein, je pourrais vous raconter des scientifiques qui vous disent à la fin de leur vie qu'en fait, ils ont une intuition. Un moment où vous faisiez une longue sieste.
Alors, les conditions optimales de la sieste, d'abord une pièce sombre, mais vous n'allez pas jusqu'à l'obscurité complète. Ensuite, un fauteuil inclinable plutôt qu'un lit. Hein.
L'idéal, c'est tout de même la position allongée. Hein. Donc là, il y a quelques études qui ont été faites sur le sujet. C'est la position allongée. L'idéal, c'est allongé. Si je ne peux pas incliner son fauteuil, au moins les études montent à 40 degrés. On dort beaucoup mieux.
Comment en aussi peu de temps parvenir à l'endormissement ?
Déjà choisir les bons moments, il faut écouter son corps, les signes de son corps. On a à peu près toutes les 1h30, 2h, des fenêtres de sommeil, donc des moments plus favorables pour s'endormir. Il faut savoir les repérer. On les repère mieux lorsqu'on a très peu dormi la veille. Les principales sont évidemment le soir. Hein. Dans un couple, on ne l'a pas au même moment. Donc, il y en a un qui vous parle et l'autre a envie de s'endormir. Et voilà, des fois, il s'engueule même. Et donc, il faut, un, repérer, écouter son corps. Et deux, être régulier. Si je n'arrive pas à faire la sieste, il faut habituer son horloge biologique, qui a une certaine plasticité, à lui dire, bah voilà, à telle heure, tous les jours, en début d'après-midi, je fais la sieste. Et en retour, elle va vous favoriser physiologiquement les portes du sommeil et ouvrir les portes du sommeil. Et enfin, il y a des techniques de sophrologie, de respiration qui peuvent vous aider si vous êtes trop anxieux, parce que l'ennemi de l'endormissement, c'est l'anxiété avant tout.
Voilà, par exemple, lisez un autre livre que celui de Brice Faro si vous voulez vous endormir.
C'est gentil, c'est gentil.
En tout cas, je note que l'horloge biologique est toujours présente, qu'elle fait son travail et que la sieste peut devenir avec profit une ritualisation. Merci. Absolument. Monsieur Faro.
Merci beaucoup à vous et vive la sieste.
Le mot de la semaine, eh bien écoutez, il est vieux comme la Révolution française. C'est la droite. Qu'est-ce qu'on parle de la droite, hein, surtout depuis qu'on la cherche au moment des élections et même un peu plus tard. Alors la droite, elle est née en 1789 lorsque les députés de l'Assemblée constituante ont décidé d'afficher leurs convictions idéologiques à travers la place qu'ils occupaient dans l'hémicycle. Le centre est venu plus tard et j'imagine à l'usage des parlementaires incapables de distinguer entre la droite et la gauche.
Et dans un instant, le grand jury RTL Le Figaro LCI, présenté par Benjamin Sportouche, qui recevra Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.
Il va être encore question de la droite.
Philippe, on vous retrouve dimanche prochain, 11h30.
À dimanche prochain.
Très bien Philippe, c'est noté. Bonne semaine à vous, vous écoutez RTL et il est midi.